Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Je vous rappelle donc qu'au moment où je me suis interrompu la dernière fois, j'avais commencé à évoquer les relations entre Chinois et étrangers au sein de la CIFRC, donc de la Commission internationale de secours contre la famine. Pourquoi particulièrement la CIFRC ? Eh bien, comme nous l'avons déjà vu à maintes reprises, celle-ci était très active au Shaanxi depuis les années 1920, donc sur notre terrain. Aussi parce que c'était son directeur des opérations de secours, l'Américain John Baker, qui avait relancé le projet de modernisation de l'irrigation dans la zone du Weibei à l'été 1930, que tout de suite après, c'était les ingénieurs de la CIFRC, sous la supervision d'un Américain, Todd, dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui, et sous la direction effective d'un Norvégien qui s'appelait Eliassen, dont nous parlerons beaucoup un peu plus tard, ces ingénieurs donc qui avaient mis le projet au point techniquement et qui avaient ouvert le chantier. Et enfin, parce que sans l'appui financier et technique de la CIFRC, le projet n'aurait jamais pu être mené à bien. Les dernières parties du réseau de distribution, comme je l'avais dit, sont achevées en 1934. Or, comme je l'ai aussi rappelé, et comme nous le verrons plus en détail par la suite, cette réalisation a eu un profond impact sur la phase de développement qui s'est enclenchée au Guangzhou, donc dans le centre du Shaanxi, dans la vallée de la Wei, après 1930, et qui est mon sujet de cette année. En d'autres termes, la façon dont fonctionnait la CIFRC, et surtout dont elle fonctionnait par rapport à son environnement chinois, est pour nous d'un intérêt direct. Mais avant d'examiner comment les représentants de la commission, de la CIFRC, qui n'étaient pas tous des occidentaux, bien entendu, il y avait aussi des cadres chinois dans les équipes envoyées sur le terrain. Donc, avant d'examiner comment les représentants de la commission interagissaient avec leurs hôtes, entre guillemets, au Shaanxi, qu'il s'agit des chefs d'équipe et des ouvriers qui travaillaient sur les chantiers sous leur direction, ou des autorités locales avec lesquelles il fallait toujours négocier, ou tout simplement des villageois, dont la vie était directement affectée par ces chantiers. Avant de parler de cela, donc, j'ai choisi de m'intéresser d'abord à la façon dont Chinois et non-Chinois cohabitaient et collaboraient à l'intérieur même de l'organisation, de la CIFRC, qui, par définition, bien sûr, était un organisme sino-étranger. Et plus précisément, j'ai choisi de m'intéresser aux difficultés que cette cohabitation et cette collaboration semblent avoir parfois rencontrées. Comme je le disais, ce sont des choses qui n'apparaissent guère dans les sources conventionnelles, à commencer par les publications officielles de la CIFRC. Il faut se tourner vers certains témoignages a posteriori, ou mieux, vers des documents d'archives, et je dis « ou mieux » parce que par définition, les archives ne sont pas a posteriori, elles parlent, si on peut dire, en temps réel, pour commencer à se faire une idée des tensions qui pouvaient exister entre les responsables de la commission, ou du moins entre certains d'entre eux, et ce qui m'intéresse plus en l'occurrence, pour percevoir comment leurs origines, chinois d'un côté et non chinois de l'autre, ont pu jouer un rôle. Et pour parler de cela, j'ai donc choisi de m'intéresser un moment aux relations le plus souvent difficiles, de toute évidence, entre deux personnages que j'avais eu le temps de mentionner brièvement la semaine dernière et auxquels je vais consacrer la plus grande partie de mon temps aujourd'hui. Pourquoi ces deux-là ? Eh bien, déjà parce qu'il se trouve que nous disposons de quelques sources qui permettent de se faire une idée relativement précise de leurs conflits, ou au moins de certains de leurs conflits, et que par ailleurs, il est possible de se faire au moins une certaine idée de leur personnalité, et aussi de se faire une idée de ce qui, là encore, m'intéresse plus, à savoir la façon dont le fait d'être l'un un Américain conscient et imbu même de sa mission en Chine, et l'autre un Chinois profondément engagé en tant que Chinois dans les efforts pour sauver la Chine, puisque c'est bien dans ces termes que l'on s'exprimait à l'époque, la façon donc, dont tout cela donc, a pu surdéterminer les frictions entre ces deux personnages, de toute évidence difficiles. Il s'agissait donc, vous vous en souvenez, d'un côté de, je l'ai réécrit une dernière fois, de O.J. Todd, l'ingénieur américain qui avait été engagé par la CIFRC comme ingénieur en chef en 1923, et de l'autre, alors, plusieurs façons de l'écrire, Zhao Yanshan, donc connu dans les sources, on l'appelle Wayes, comme on appelle souvent les Chinois de cette génération, écrit comme ça, Zhang. Shan. Voilà, Zhang Yanshan, qui était le secrétaire en titre de la CIFRC depuis 1927 et qui l'est resté jusqu'en 1937, mais en fait qui était plus ou moins en charge de ses fonctions dès la création de la commission à la fin de 1921, création dont il avait d'ailleurs été un des principaux artisans. Avant toutefois d'évoquer ces deux personnalités, qui étaient de fortes personnalités, comme nous verrons, et en plus avec une certaine surface sociale, et d'évoquer leurs disputes plus ou moins feutrées, il est important de souligner que la rivalité entre Zhang et Todd était en partie déterminée par les choix stratégiques de la CIFRC. En effet, comme je l'ai peut-être déjà indiqué, la CIFRC avait été assez vite conduite à concentrer ses efforts sur deux grands types de programmes. Ces programmes visaient l'un et l'autre le même but, c'est-à-dire renforcer les capacités de résistance de la société rurale face aux désastres naturels et en même temps diminuer l'impact potentiel de ces désastres par des mesures préventives. Donc, le premier type de programme, c'était la mise en place d'un réseau de coopératives de crédit rural. L'objet de ces coopératives, c'était d'aider les paysans à sortir de la pauvreté en leur enseignant comment s'organiser entre eux pour échapper au crédit usuraire et investir de façon à rendre leurs exploitations plus productives et moins sujettes aux aléas du climat, et aussi pour avoir un accès plus direct et donc plus profitable pour eux au marché. Et j'ajoute qu'au-delà de cette fonction, disons purement économique, les coopératives, en particulier lorsqu'elles se regroupaient en fédérations de coopératives, donc entre plusieurs villages, avait également pour vocation d'améliorer qualitativement la vie rurale, la société rurale, en créant des écoles, en finançant des infrastructures locales, enfin à petite échelle, des greniers, des choses comme ça, en organisant des services médicaux et même en contribuant à ce que les fonctionnaires de l'époque impériale appelaient l'amélioration des coutumes, comme de décourager les dépenses somptuaires en cas de mariage ou de funérailles capables de ruiner un foyer, comme d'interdire le jeu, de décourager les disputes en justice, etc., etc. Quant au second type de programme, qui nous est ici plus familier, c'était donc les grands travaux, c'est-à-dire les projets d'infrastructure, les digues, les systèmes d'irrigation, les routes, qui relevaient, eux, du domaine de l'ingénierie en travaux civils, en travaux publics, et qui permettaient en outre de combiner secours et prévention, suivant la formule des secours en échange de travail, que j'ai déjà mentionné et que j'aurai l'occasion de décrire plus en détail. Or, à la CIFRC, l'homme des coopératives rurales, entre beaucoup d'autres choses, c'était Zhang Yanshan. C'est lui qui avait lancé le mouvement après une période d'enquête de terrain et d'études préliminaires dès 1923, et il en est resté l'inspirateur, l'organisateur et le responsable pendant toute l'histoire de la CIFRC. Et tout suggère d'ailleurs que à peu près partout où les coopératives de crédit rural patronnées par la CIFRC et pour être patronnées acceptant de se conformer à ces normes ont été mises en place, apparemment ça a été une réussite. À tel point que, à partir de 1931, les banques commerciales, qui par principe se méfiaient beaucoup du monde rural, ont commencé de s'y intéresser et de leur avancer des fonds par l'intermédiaire de la CIFRC. C'était même devenu, si l'on croit en tout cas ce qu'affirmera plus tard Zhang Yuanshan, c'était même devenu une sorte de mode parmi les banquiers que de consentir des prêts à la CIFRC destinés aux coopératives rurales. En effet, la solvabilité de ces dernières et le sérieux de leur gestion étaient notoires, et la CIFRC y veillait étroitement. Et en outre, il y avait justement la garantie offerte par la garantie financière offerte aux banques par la CIFRC elle-même. Il faut préciser que, au-delà de son rôle d'initiateur et de pédagogue, la CIFRC ne finançait pas les coopératives de crédit, sauf cas exceptionnels. Elle se contentait de leur faire des avances au démarrage, mais qui étaient remboursables, et elle veillait à ce qu'elles deviennent autonome le plus rapidement possible. En tout cas, la réussite du programme de crédit rural dans la province pilote du Hebei, c'est-à-dire la province où se trouve Pékin, à laquelle le programme avait été volontairement limité pendant les premières années, pour en faire une sorte de province modèle de ce point de vue-là. Et c'est ainsi qu'aux alentours de 1930, on comptait au Hebei plus de 900 coopératives, regroupant, le chiffre donné, c'est 25 600 et quelques membres. Cette réussite, donc, a suffisamment contribué à la réputation de Zhang Yuanshan pour que, en 1931, au moment des inondations catastrophiques dans toute la vallée du Yangtze, les autorités nationalistes, en la personne du puissant ministre des Finances, Song Zhiwen, qui était le beau-frère de Chiang Kai-shek, comme chacun sait, est plus connu, là encore, sous son appellation anglicisée, c'est-à-dire TV Sung. On l'appelait TV, de même que Zhang Yuanshan était YS. C'était... Donc, pour que le ministre des Finances, pour que TV Sung fasse appel à lui, à Zhang Yuanshan, d'abord pour participer à l'organisation des secours au nom de la CIFRC, en apportant ses cadres et son expérience, et ensuite pour étendre le mouvement coopératif rural aux provinces du sud de la Chine. Et là encore, l'opération a rencontré suffisamment de succès pour que on confie à Zhang Yuanshan, en fin de compte, la direction du programme de coopérative du gouvernement lui-même, qui cherchait à récupérer toutes ces choses, et qui, en 1935, avait créé au sein du ministère de l'Industrie un département des coopératives, qui s'appelait donc le Rezose, donc le département des coopératives, ayant vocation à étendre son contrôle sur l'ensemble des organisations de ce type, et dans tout le pays. Et Zhang Yuanshan a donc assumé ce poste en 1935 et il y est resté jusqu'en 1937. Et je note au passage, mais ça j'y reviendrai, que dès 1932 ou 33, il faut que je voie plus près, Zhang avait été requis, toujours par les autorités nationalistes, de lancer un mouvement de coopérative rurale au Shaanxi, dans le cadre donc des efforts pour impulser le développement de la région, qui sont notre sujet. Mais encore une fois, je reviendrai plus tard. Sur ce qu'on peut savoir de ce mouvement des coopératives au Shaanxi, en fait, on n'a pas tellement de détails. Dans ses souvenirs sur le mouvement coopératif, qui ont été rédigés en 1960, Zhang Yuanshan insiste sur le fait que s'il a collaboré de la sorte avec le gouvernement nationaliste, c'était, si l'on peut dire, à son corps défendant. À un moment où la pression qui s'exerçait sur lui était telle qu'il ne lui était plus possible d'y échapper. Et plus généralement, d'ailleurs, il affecte dans ce texte dont je reparlerai tout à l'heure, il affecte de prendre ses distances avec une entreprise d'amélioration ou de réforme rurale qu'il qualifie lui-même justement de réformiste. C'est du Kaliangjui. Une entreprise dont l'échec, affirme-t-il, était inévitable puisqu'il ne s'agissait de rien d'autre, en fin de compte, que d'aménager la société existante et non pas de la subvertir par la révolution en s'attaquant aux causes véritables de la misère rurale, c'est-à-dire aux propriétaires fonciers, à l'oppression féodale, etc. Chose que, ajoute-t-il encore, seul le socialisme est en mesure de faire. Zhang écrit, comme je l'ai dit, en 1960. Il s'agit d'un texte destiné à la grande collection de témoignages sur l'époque républicaine, appelé « Wenshi Ziliao », c'est-à-dire « Matériaux sur la culture et l'histoire », dont j'avais parlé assez en détail il y a 3 ans, je crois. Oui, dont j'ai souvent parlé. Et donc, il écrit dans les Wenshi Ziliao, et il est clair que, écrivant là, il tient à manifester son adhésion à l'orthodoxie du moment. De même, d'ailleurs, qu'après avoir rallié le régime communiste en 1949, Zhang Yuanshan s'est cru obligé, comme quelques autres anciens de la CIFRC, de dénoncer cette dernière comme un instrument de l'impérialisme américain. Mais il n'en est pas moins évident, à voir la façon dont il en parle, qu'il est extrêmement fier de son œuvre à la tête du mouvement des coopératives de crédit rural dans les années 20 et 30, qui, après tout, a été, on peut le dire, l'œuvre de sa vie. Et ce, même si sa vie était loin d'être terminée dans les années 30, puisqu'il devait encore vivre près de 40 ans sous le régime populaire, avant de mourir en 1987 à l'âge de 95 ans. Voilà donc pour Zhang Yuanshan et le programme de coopérative de la CIFRC, dont il était en quelque sorte l'âme et qui lui a valu une notoriété nationale. Au contraire, Todd, l'ingénieur, ne jurait que par les grands projets d'infrastructure et cherchait par tous les moyens à développer son département d'ingénierie et à renforcer sa propre position au sein de la CIFRC, comme on peut le voir en grand détail dans les correspondances conservées dans ses archives, surtout à partir de 1930. Et je ferai allusion à un certain nombre de lettres tout à l'heure. Il y avait là, inévitablement, une source de friction dans la mesure où les deux types de projets se trouvaient en compétition pour mobiliser les ressources humaines et matérielles de la CIFRC. Et ont aussi fini par se trouver en compétition, si l'on peut dire politique, pour ne pas dire symbolique, comme nous allons tout de suite le voir. Apparemment, Todd ne cachait pas son dédain pour le programme de crédit rural de la CIFRC, sur lequel donc Zhang Yuanshan avait la haute main. Certains de ses amis, auprès desquels il cherche assistance, au moment où sa position à la CIFRC semble sérieusement menacée, on va voir pourquoi, certains de ses amis n'hésitent d'ailleurs pas à lui reprocher cette attitude. Ainsi, John Baker, enfin je réécris encore son nom, il revient plusieurs fois, John Baker, que nous avons donc déjà rencontré et qui était un vieux routier de la coopération internationale philanthropique en Chine, Baker se permet, dans une lettre du 12 octobre 1934, de faire un peu la leçon à Todd. Autant il est d'accord sur le fait que le comité exécutif et tous les autres se doivent de soutenir avec vigueur l'ingénieur en chef et son travail, dit-il, autant l'ingénieur en chef, et je cite, « devrait de la même façon soutenir avec vigueur le travail des autres parties de l'organisation ». Et il ajoute, je cite encore, « que cela vous plaise ou non, le crédit rural coopératif a pris, caught on », c'est-à-dire au sens où une mode prend, le crédit rural a pris et il est populaire dans les cercles intellectuels et gouvernementaux. S'opposer au travail accompli ou le minimiser, c'est simplement aller contre le vent. En outre, attaquer trop fréquemment les autres membres de l'organisation, c'est-à-dire ses collègues de la CIFRC, en présence de tiers, ne peut que faire craindre aux dix tiers qu'ils se font attaquer de la même façon quand ils ne sont pas là. En d'autres termes, Todd devrait éviter de critiquer publiquement les choix stratégiques de la commission et surtout, il devrait éviter d'attaquer publiquement ses responsables quand il n'est pas d'accord avec eux. Le problème, c'est que, en effet, les priorités de la CIFRC avaient commencé de changer sérieusement à partir de 1930 environ, et pas dans un sens favorable aux activités de Todd. Au moment de la création de la commission, nous l'avions vu, l'ouverture de grands chantiers pour secourir les victimes de la famine avait été définie comme sa mission prioritaire, fondatrice en quelque sorte, résumée par la formule « organiser les secours pour prévenir les désastres », c'est-à-dire « Chouzhen ». Dès 1924, un accord tacite avait abandonné à la Croix-Rouge chinoise la distribution des secours d'urgence, la CIFRC se concentrant pour sa part sur les secours d'hiver en échange de travail et par ailleurs sur la coopération rurale dont je viens de parler, donc plutôt sur le long terme. Seulement, cette stratégie de la CIFRC a dû être révisée au début des années 30, essentiellement pour deux raisons. D'abord, parce que des événements comme la guerre civile et la terrible famine de 1929 et 1930, dont je vous ai déjà entretenu en longueur, ont contraint l'organisation à se convertir, en partie au moins, à la distribution de secours d'urgence, justement. Et c'est ce qu'avait d'ailleurs essayé de faire Baker, comme je l'avais raconté, au Shanxi, au cœur de l'été 1930. Ou alors, l'organisation a été contrainte de dispenser des secours pour aider individuellement les paysans à reconstruire leur foyer après une catastrophe naturelle. C'est ce qu'on appelait le Nongzhen, c'est-à-dire le secours rural, si on veut, qui n'était donc pas un secours d'urgence contre les famines, mais des sortes d'aides à la reconstruction et au redémarrage, mais des aides individuelles. Et le Nongzhen était une des spécialités justement de Zhang Yuanshan. une procédure qui a été inaugurée pendant les inondations du Yangtze en 1931. Donc ça, c'est une chose. Et autre raison pour laquelle la stratégie de la CUFRC a dû être révisée, c'est que le gouvernement nationaliste et sa nouvelle commission nationale d'économie, dont le patron était également Tivisson, enfin le ministre des Finances, encourageait désormais la prise en charge directe des programmes d'infrastructure par le gouvernement. Cette commission nationale d'économie, donc, qu'on appelle et que j'appellerai, quand j'en reparlerai, l'annexe, c'est-à-dire National Economic Commission, tout simplement, qui avait été créée, je ne sais plus si c'est 1931 ou 32, 31, donc, qui s'appelait en chinois, donc Ting Ti Wei Yuan Hui, était donc la chose également de Song Zhe-wen. Et c'est donc pourquoi, à partir de 1934, la CIFRC se réorientera définitivement en se concentrant sur les programmes d'amélioration rurale et sur le mouvement coopératif. Et il est tout à fait clair que cette remise en question des anciennes priorités a été pour une bonne part à l'origine des difficultés de Todd à la fin de sa carrière à la CIFRC et finalement de son licenciement et n'a fait qu'aggraver ses différends avec Y.S. Zhang, avec Zhang Yuanshan. Sur tout cela, il y a dans les archives de Todd un certain nombre de lettres, datant en particulier de 1934, dans lesquelles il expose sa façon de voir les choses avec d'autant plus de franchise que ces lettres sont adressées à des amis de toute confiance, comme, là encore, son alter ego, John Baker, qui ne travaillait pas pour la CIFRC à ce moment-là, mais avec qui Todd avait maintes fois collaboré depuis 1920. En fait, c'est Baker qui avait démarré la carrière de Todd comme ingénieur de famine, si je puis dire, en Chine, et Baker à qui le liait manifestement des liens d'amitié et de respect mutuel. Ces documents sont intéressants, non pas tant à cause des allusions perfides à Zhang Yuanshan qu'on y rencontre ça et là, que parce qu'on peut y voir que, en effet, la CIFRC n'arrivait plus à financer un département d'ingénierie qui coûtait cher, ne serait-ce qu'en raison du salaire d'expatrié, si je puis dire, que touchait l'ingénieur en chef. Et que sur cette question, il y avait, semble-t-il, un certain désaccord au sein du comité exécutif, la ligne de partage se situant plus ou moins entre Chinois et Américains. Le problème était que les financements extérieurs, qui étaient pratiquement tous d'origine américaine, n'arrivaient que lorsqu'il y avait justement des grands travaux à faire, c'est-à-dire lorsque survenait une catastrophe naturelle, sécheresse ou inondation, qui justifiait que l'on fît appel à la CIFRC pour distribuer à grande échelle des secours en échange de travail, puisqu'aussi bien la réputation de savoir-faire du département d'ingénierie de la CIFRC pour organiser des chantiers de ce type, dans ce type de circonstances, cette réputation était grande. Mais alors seulement, on pourrait mobiliser la charité américaine, c'est-à-dire faire des campagnes pour sauver les petits Chinois en particulier, puisqu'on parlait de petits Chinois à l'époque, victimes de la famille, la charité américaine, dont le principal conduit était une association appelée China Famine Relief USA, Incorporated. Donc, ça, on en parle souvent, qui était domicilié à New York. En dehors de ces périodes, en revanche, la CIFRC ne pouvait pas se permettre d'entretenir tout un staff d'ingénieurs qui n'auraient d'autre occupation que de se livrer à des études pour d'hypothétiques projets. Pendant ces périodes d'inactivité, le département d'ingénierie était par conséquent réduit à sa plus simple expression, puisque l'on devait renvoyer chez eux les ingénieurs que l'on avait engagés temporairement, et avec de plutôt bons salaires, semble-t-il. Et à la prochaine occurrence, il faudrait en trouver d'autres qu'on ne connaissait pas nécessairement et qui risquaient de ne pas avoir autant d'expérience que les précédents. Tout cela, donc, nuisait à la qualité et à la continuité du travail du département d'ingénierie. Et Todd se plaint à maintes reprises de cette situation. Il s'en plaint d'autant plus que ses efforts pour trouver des financements extérieurs afin de maintenir une équipe permanente d'ingénieurs, ses efforts y compris auprès des gouverneurs des provinces chinoises du Nord, auprès de qui il avait une assez bonne réputation, Shanxi, Shanxi, etc., que ces efforts, donc, n'ont pas abouti. De façon intéressante, nous avons un autre témoignage chinois, celui-là, qui confirme tout à fait cette situation. Il s'agit des souvenirs d'un certain Ma Xiqing, dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Ma Xiqing. Ma Xiqing. Un texte de quelques pages qui s'appelle justement « Souvenirs de la CIFRC » un texte qui est reproduit en appendice à une biographie de Zhang Yuanshan publiée en 2002, dont je redirai un mot tout à l'heure. Rien ne nous est dit de cet auteur, de ce Ma Xiqing, mais le texte lui-même montre qu'au début des années 1930, c'était un de ces jeunes ingénieurs chinois, pas tellement nombreux, qui acceptaient de s'employer sur les chantiers de la CIFRC malgré des conditions de travail le plus souvent très pénibles, voire assez dangereuses, et lui-même indique qu'il a été l'un des rares à travailler continuellement pendant plusieurs années pour la commission. Rien n'est dit non plus de la provenance du texte, mais étant donné sa forme, je ne serais pas surpris qu'il ait été extrait justement des Wenches de Liao, dont je parlais tout à l'heure. Le ton de ce Ma Xiqing dans ces quelques pages est remarquablement objectif, aussi bien techniquement que politiquement, et l'auteur ne cesse d'insister qu'il ne parle que de ceux dont il a une expérience personnelle et de ceux dont il se souvient. Il n'arrête pas de dire « ça, je ne m'en souviens pas très bien, je ne suis pas très sûr », etc. Ma Xiqing donc raconte à un endroit que, après la fermeture temporaire du chantier de la route Xi'an, dont j'avais parlé l'autre jour, entre Xi'an et Lanzhou, donc la fermeture temporaire de ce chantier à la suite d'un incident grave survenu à l'été 1932 que j'évoquerai plus tard, et en attendant d'être envoyé sur un autre projet, il a été rapatrié au bureau d'ingénierie à Pékin pour y effectuer des travaux de cartographie. Or, là, en dehors de Todd lui-même et de son adjoint et en fait futur successeur qui était un jeune ingénieur qu'on rencontre assez souvent dans les sources qui s'appelait Zhang Qichun, enfin jeune à l'époque, il était récemment diplômé. Zhang Qichun. Donc en dehors de Todd et de son adjoint, il n'y avait qu'une secrétaire et deux dessinateurs. Et un peu plus loin, Ma Xiqing confirme qu'en effet, l'on engageait des ingénieurs qu'au moment où on avait besoin d'eux, et qu'on les renvoyait aussitôt le travail terminé, si bien que le département d'ingénierie de la CIFRC n'était pas en mesure, comme il dit, de nourrir des talents, Yangtzai, ni d'entretenir une équipe entraînée, travaillant dans la continuité et profitant de la mémoire de ses propres expériences. Du coup, à l'ouverture des nouveaux chantiers, les travaux préparatoires, c'est-à-dire les relevés topographiques, les observations hydrométriques et toutes ces choses, devaient être effectués en toute hâte, avec parfois des conséquences tout à fait déplorables sur la fiabilité des installations édifiées, ce dont a quelque peu souffert la réputation de la commission et en fait celle de Todd lui-même. Et à cet égard, on peut remarquer que si la réalisation du système hydraulique du Weibei, donc du canal Tinghui, ne semble pas avoir trop souffert de ce genre de défaut, et qu'elle a été malgré tout reconnue comme une réussite, alors qu'elle aussi avait été démarrée dans une certaine hâte, donc juste après l'entrée des nationalistes à Xi'an, c'est parce qu'on pouvait s'appuyer sur tous les travaux préparatoires qui avaient été effectués des années durant sous la direction de Li Zhe dans le courant des années 20, que j'avais évoqué aussi en leur temps. Et ces travaux demandent beaucoup de temps, d'arpentage, de topographie, et en particulier les travaux hydrométriques, de mesures hydrométriques, n'ont aucun sens s'ils ne sont pas faits sur plusieurs années, de façon à avoir une signification statistique. Pour Todd, cette situation, dont il ne cessait de se plaindre, était la conséquence directe de la mauvaise volonté du comité exécutif de la CIFRC, ou plus exactement, comme il le dit à plusieurs reprises dans sa correspondance, des membres chinois du comité et de leur incapacité à reconnaître l'importance de son travail et de son département. C'est d'ailleurs pourquoi il a dû se battre à plusieurs reprises pour conserver son poste en se faisant payer une partie ou même la totalité de son salaire directement par China Famine Relief USA, donc cette organisation dont j'ai écrit le nom, à New York, avec qui il fallait négocier des renouvellements année après année, ou même tous les 6 mois. Ces problèmes de salaire, qui reviennent périodiquement sur le tapis, et à propos desquels Todd semble avoir été assez insistant, faisant en particulier savoir qu'il pourrait être bien mieux payé ailleurs, ces problèmes de salaire ne semblent pas avoir contribué à apaiser les choses. À en croire certaines affirmations de Todd, dès 1926, il y avait à Pékin, c'est-à-dire, si l'on comprend bien, au sein du comité exécutif, il y avait à Pékin des gens qui complotaient, dit-il, pour purger la CIFRC de tous ces étrangers, ou à tout le moins qui se demandaient si c'était bien la peine de payer aussi cher un ingénieur étranger. Déjà en 1928, son contrat avait pu sembler menacé à tel point que Zhang Yuanshan lui avait dit, avant son départ en congé pour les États-Unis, que s'il ne trouvait pas des ressources là-bas, il pourrait aussi bien rester à la maison. En revanche, en 1929, lorsque Todd annonce qu'il souhaite démissionner de la CIFRC pour accepter une offre intéressante et bien payée de Sun Fo, qui était le fils de Sun Yat-sen et qui était alors le chef, enfin un membre éminent du Kuomintang, et qui était alors le chef du nouveau ministère des Communications à Nankin, donc une offre de Sun Fo qui l'invite à être consultant pour un grandiose programme de construction routière qui d'ailleurs n'a jamais eu lieu. Lorsque Todd demande à démissionner, c'est le contraire. On le retient par les Basques, on lui dit que ça serait catastrophique pour la commission s'il s'en allait, et en effet, on était alors en pleine famine, et on lui offre un nouveau contrat de 3 ans, qu'il essaye d'ailleurs bientôt de renégocier à la hausse. Un de ses problèmes, c'est un vrai problème, c'est que Todd était payé en Chine en dollars chinois d'argent, ce qu'on écrit toujours dans les sources, dans les comptabilités de l'époque. Dollars mexicains, on appelle ça bien. Je ne crois pas qu'ils étaient. Donc il y avait le dollar mex et puis il y avait le dollar gold. Alors, ça, ce n'est pas du tout la même chose. Et comme vous savez, la Chine ne s'était pas convertie à l'étalon or. Et le change du dollar chinois était de plus en plus défavorable, si bien dans ces années, si bien que Todd perdait beaucoup par rapport au dollar américain en or avec lesquels il devait payer tous ses frais en Amérique. Il avait divorcé, il avait des pensions alimentaires. En plus, il s'était remarié en Chine, il avait beaucoup plus de frais, il avait de nombreuses familles. Donc, il parle de tout ça pour dire « mon salaire ne me suffit plus ». Je vous passe les détails de toutes ces tractations, mais comme je l'ai dit à l'instant, dès 1932, si ce n'est plus tôt, Todd doit trouver le moyen de se faire payer par l'organisation new-yorkaise qui collectait des fonds pour la CIFRC. Et en 1932, la situation économique en Amérique n'était guère brillante, ce qui nécessite, comme je l'ai dit, des négociations continuelles. Et en juillet 1934, donc, le comité exécutif de la CIFRC prend la décision de supprimer le département d'ingénierie et de remercier Todd, sous prétexte qu'il n'y a plus de grands travaux à faire. L'initiative de cette décision, que Todd qualifie quelque part de bombe, vient, semble-t-il, des membres chinois du comité, sans que leurs collègues non-chinois, dont Todd se plaint d'ailleurs qu'ils n'ont ni l'envergure ni la vision de la génération qui avait été en poste dans les années 20, donc sans que leurs collègues non-chinois aient pu s'y opposer. En fait, Todd continuera de fonctionner jusque dans le courant de 1935 avec une subvention extérieure, et son département ne sera pas supprimé, mais il sera d'abord réduit financièrement et il sera surtout très réorganisé et voué non plus à des grands travaux d'infrastructure, mais à des projets de moindre importance dans le cadre des programmes d'amélioration rurale, et il sera placé donc sous la direction de l'ancien adjoint de Todd, Zhang Tichun, pour qui il avait d'ailleurs la plus grande estime, et dont le salaire était de moins du tiers de celui de Todd lui-même, lequel salaire de Todd en 1933, par exemple, d'après une source en tout cas, représentait 65% du budget du bureau d'ingénierie qu'il dirigeait. Quoi qu'il en soit, s'il en a été ainsi, et si l'on relève au moment de cette fatale décision un certain défaitisme au sein du comité, C'est aussi, du comité exécutif, c'est aussi parce que, après 1930, la concurrence de la NEC, dont j'ai parlé à l'instant, donc de la commission économique du gouvernement nationaliste, la concurrence de la NEC pour la maîtrise des grands travaux est de plus en plus affirmée, y compris en Chine du Nord, c'est-à-dire sur le terrain de prédilection de la CIFRC. Todd, encore lui, parle à plusieurs reprises des jeunes ambitieux de la NEC, comme il les appelle, donc des jeunes ingénieurs chinois, qui lui volent ses projets avec l'appui des ingénieurs européens envoyés par la Société des Nations à la demande du gouvernement chinois. Todd sait très bien que les experts de la Société des Nations critiquent ses propres réalisations. Et un peu plus tard, leur rapport, qui sera publié à Genève, provoquera un véritable tollé dans le milieu des ingénieurs américains en Chine. Et il sait par ailleurs que les ingénieurs chinois employés par la NEC s'estiment capables de remplacer le département d'ingénierie de la CIFRC. Mais lui s'affirme convaincu du contraire. D'après lui, et d'après plusieurs de ses collègues américains qu'il cite, d'après lui, la Chine n'en est pas encore à pouvoir se passer de leurs services. Bien au contraire, elle aura encore besoin d'eux pendant plusieurs années, car s'il est incontestable que le nombre d'ingénieurs chinois formés et bien formés a incontestablement beaucoup augmenté, à ce moment-là, donc dans le courant, le début des années 30, les ingénieurs chinois de très haut niveau, top-notch, comme il dit, comme lui et ses collègues, le sont, de tels ingénieurs de très haut niveau sont encore très peu nombreux. Et donc, il convient que les ingénieurs américains travaillant en Chine, qui ne cessent de déplorer qu'ils ne sont plus respectés autant qu'avant et qu'on ne les traite pas comme il conviendrait, c'est-à-dire qu'on ne les paye plus assez, il convient donc que les ingénieurs américains travaillant en Chine se serrent les coudes. La conjoncture, en d'autres termes, explique pour une bonne part les difficultés que Todd n'a cessé de rencontrer au début des années 30, alors même que le canal Tinghui, l'un des fleurons du programme de grands travaux de la CIFRC, était en construction au Shaanxi. Difficultés qui n'ont fait que s'aggraver jusqu'à la fin de sa collaboration avec la CIFRC. Mais il est clair qu'il n'y avait pas que la conjoncture, il y avait aussi la personnalité de Todd. Son autoritarisme, la conscience de sa propre importance, sa brusquerie, son arrogance. Et par-dessus tout, il y avait ce qu'il faut bien appeler son sentiment de supériorité par rapport aux Chinois. Ces derniers s'en plaignaient d'ailleurs. Pour ne donner qu'un exemple, lorsque Todd se sépare définitivement de la CIFRC en 1935, le secrétaire général de China Famine Relief USA, donc à New York, qui lui avait payé une partie de son salaire pendant plusieurs années, lui écrit pour lui dire que c'est bien regrettable, mais que aussi bien lui, donc le secrétaire, que Walter Mallory, un personnage important qui était également un ingénieur américain et qui avait été le premier secrétaire général en fait de la CIFRC jusqu'en le prédécesseur de Zhang Yuanshan, donc aussi bien lui que Mallory qui en ont discuté, pense que, et je cite, lorsqu'on les examine, les faits indiquent de façon tout à fait claire qu'une attitude quelque peu différente de votre part envers les Chinois aurait probablement fait une grande différence en ce qui concerne les relations dans le futur. Et le même épistolier ajoute que si les Chinois n'osent pas le dire directement à Todd, enfin se plaindre directement à Todd de son attitude, en revanche, lui, son correspondant, a reçu des messages d'amis chinois de Todd lui affirmant que là, en effet, est l'origine des difficultés qui se sont produites. Et Todd ne pouvait pas dire qu'on ne l'avait pas prévenu. D'autres de ses correspondants l'avaient semblablement mis en garde contre son comportement avec ses collègues chinois. Toutes ces lettres donc se trouvent dans les archives de Todd. Ainsi, au début de 1932, un certain Whitey Tzu, encore un de ces notables avec un nom impossible, dont le nom chinois en fait est Zhou Yi, je sais plus quoi, attendez, Zhou Yichun. Alors comment on est arrivé de Zhou à Tsur, ça, je ne sais pas quel dialecte ou quelle faute d'orthographe, parce que souvent les noms chinois d'usage, disons, dans les documents anglais étaient le résultat d'une mauvaise copie ou d'une faute d'orthographe. En tout cas, ce Whitey Tzu, qui était donc un de ces notables chinois qui avait étudié en Amérique et qui était familier des cercles du pouvoir en Chine, il avait été un des trésoriers de la CIFRC jusqu'en 1927 et Apparemment, au moment où il écrit, il est président intérimaire de la CIFRC. Wattitsour, donc, écrit à Todd pour lui dire que, bien qu'ayant été l'un de ses soutiens dans le passé, il a récemment entendu beaucoup de critiques sur lui, si bien qu'il le met en garde, dans des termes assez vifs, contre son impolitesse, ses jugements hâtifs, ses méthodes désinvoltes, et surtout contre sa propension, je cite, « sa propension à penser que tous les Chinois sont inférieurs à sa précieuse et honorable personne ». Un peu plus tard, la même année, c'est China Family Relief à New York, de nouveau, qui se plaint de recevoir des rapports critiquant son attitude, l'attitude de Todd, particulièrement à l'égard des Chinois. Et puis, j'ai mentionné donc tout à l'heure les reproches amicaux de John Baker. Tout cela, donc, explique pour une bonne part les problèmes de Todd avec le comité exécutif de la CIFRC, et tout particulièrement, pour y revenir, ses difficultés avec Zhang Yuanshan, le secrétaire général de l'organisation, ou faisant fonction de secrétaire général au début, pendant toute la période où Todd en a été l'employé. Comme je le disais, Todd laisse entendre dans de nombreuses correspondances que son principal ennemi à la CIFRC, c'est Zhang. Il a beau se défendre quand ses amis lui reprochent son attitude d'éprouver la moindre hostilité envers celui-ci, il ne manque jamais une occasion d'affirmer, à mots plus ou moins couverts, que Zhang n'a de cesse de l'attaquer, de lui jouer des tours. Et d'ailleurs, dit-il quelque part, Zhang est critiqué pour cette raison par certains membres américains du comité exécutif, ce qui, là encore, suggère une sorte de ligne de fracture, peut-être discrète, mais existant malgré tout, entre Chinois et non-Chinois au sein du dit comité. Et lorsque Todd est définitivement remercié, à l'été 1935, au retour d'un voyage en Amérique où il avait tenté vainement de faire campagne pour lever des fonds et pour sauver son département, il affirme de nouveau que c'est un coup du secrétaire général. Et il insinue même, dans une lettre à son collègue Eliassen, donc l'ingénieur norvégien qui a en fait construit le canal Tsinghua, même si Todd s'en attribuait tout le mérite dans la presse, il insinue donc dans une lettre à Eliassen que si Zhang cherche ainsi à faire des économies sur le département d'ingénierie, c'est parce qu'il essaye de mettre de l'argent de côté pour ses vieux jours. On ne sait trop ce qu'il convient de penser de toutes ces accusations et à la limite ça n'a pas une énorme importance. Mais ce qui est sûr, c'est que Zhang Yuanshan, qui semble avoir joui d'une très grande réputation d'intégrité justement et qui ne cherchait certainement pas à financer sa retraite sur les fonds de la CIFRC, que Zhang Yuanshan n'était pas n'importe qui. Et pour cette raison, soit dit en passant, on peut imaginer qu'il n'appréciait guère la désinvolture de Todd à son égard dans les relations quotidiennes de travail. Du moins, cette désinvolture est-elle suggérée par les souvenirs de Ma Xixing, donc ce collaborateur chinois de la CIFRC, dont nous avons vu tout à l'heure qu'entre deux chantiers, il avait travaillé et fréquenté, donc travaillé au bureau d'ingénierie et fréquenté quotidiennement le siège de la CIFRC à Pékin. Et le plus simple, c'est encore de citer directement les quelques lignes où Ma Xixing évoque cette expérience et où l'un des détails frappants, incidemment, c'est l'ignorance totale l'un de l'autre dans laquelle fonctionnaient apparemment les deux principaux programmes de la CIFRC, le crédit rural et les travaux publics. Donc je cite. À l'époque, M. Zhang Yuanshan était secrétaire en chef de la CIFRC et ce à quoi il accordait surtout de l'importance, c'était le travail sur les coopératives. Alors, entre parenthèses, il ajoute, je ne sais pas exactement en quoi ça consistait. Il n'intervenait pas beaucoup dans les affaires d'ingénierie et de secours. À ce qu'on disait, le financement des travaux en échange de secours, donc Yikong Daijun, toujours la même chose, à la CIFRC, venait en grande partie de contributions d'Amérique. O.J. Todd, Il écrit les noms, c'est un texte en chinois, mais il les écrit en caractère latin, et à cet endroit-là, il écrit le nom de Todd comme ça. Donc, Todd, un Américain assez difficile à contrôler, il emploie un mot qui signifie littéralement indomptable, tiao. Todd, un Américain assez difficile à contrôler, ne s'entendait pas trop avec M. Zhang, et il n'écoutait guère ses directives. Il disait que M. Zhang n'était pas un secrétaire, là aussi en anglais dans le texte, que ce n'était qu'un employé, clerk, également en anglais dans le texte. Et je vous laisse à penser, c'est moi qui l'ajoute, la réaction de Zhang Yuanshan si ce genre de propos, le traitant de grouillot et non pas de grand secrétaire, lui arrivait aux oreilles, comme il est probable que c'était le cas. Je continue la citation. « Je n'ai fait que croiser occasionnellement M. Zhang à la porte de la CIFRC ou dans la cour intérieure, car le siège de la CIFRC était dans une de ces maisons pékinoises autour d'une cour, dans une des ruelles de Pékin, près de Wangfujing. Donc, ou dans la cour d'intérieur, je n'ai jamais eu l'occasion de lui parler. » C'est que ces quelques lignes, en fait, sont tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a à dire sur son séjour à Pékin, mais c'est assez intéressant. On voit donc que l'ambiance au siège de la CIFRC n'était pas particulièrement conviviale, en tout cas pas à cette époque. Dans tous les cas, s'il est un point qui ne fait aucun doute, c'est que Zhang Yuanshan était un personnage très en vue dans ce petit monde des philanthropes chinois dont j'ai longuement parlé l'année dernière. Pour ne donner qu'un exemple, ce n'est qu'un détail, mais il nous ramène au Shaanxi, on trouve son nom dans la liste des 39 personnalités en vue de tout le pays, donc les Gedi Mingliu, auxquelles le gouverneur du Shaanxi, donc Yang Rucheng, avait lancé un appel solennel à la fin de 1930 en leur demandant de mobiliser toutes leurs relations pour venir en aide à sa province. Et j'avais fait allusion à cet appel. Nous sommes assez bien renseignés sur Zhang, car outre les nombreuses mentions que l'on trouve de lui au fil des sources, il a fait récemment l'objet d'une monographie qui permet d'une biographie donc, qui permet de cerner un peu mieux le personnage et surtout de saisir plus concrètement sa position et son travail à la CIFRC. Et cela, même si ce petit ouvrage, qui est paru en 2002, sous le titre de « Zhang Yuanshan et la CIFRC », donc « Zhang Yuanshan et Yu Huayang Yinzhehui », même si ce petit ouvrage tente un peu à la géographie, ce qui, après tout, n'est guère surprenant, si l'on remarque que l'un des deux auteurs n'est autre que le fils aîné de Zhang Yuanshan, fils qui était alors âgé de 85 ans, je veux dire, au moment de l'apparition du livre. Et comme je le disais, donc, c'est en appendice à cet ouvrage que l'on trouve les souvenirs de Ma Xiqing. Ce qui me paraît intéressant dans le cas... Donc, c'est une source qui permet de quand même beaucoup mieux voir le personnage. Ce qui me paraît intéressant dans le cas de Zhang Yuanshan, c'est que, autant qu'on puisse en juger, il était, par son parcours et par ses activités, un membre tout à fait représentatif de cette élite chinoise, le plus souvent chrétienne et toujours anglophone, capable de parler d'égal à égal avec les notables européens ou américains de la communauté étrangère en Chine, de cette élite dont nous avons vu qu'elle représentait la partie chinoise, qu'elle composait la partie chinoise dans le comité exécutif et au bureau de la CIFRC. Et en même temps, Zhang Yuanshan n'était pas un grand bourgeois, comme presque tous les autres. Il n'était issu ni des hautes sphères de l'ancien mandarinat impérial, ni de la nouvelle élite marchande. Il était né en 1892 dans une famille lettrée de Suzhou, mais de lettrée sans moyens, et il a vécu toute sa vie en gagnant son salaire. Et surtout, il semble qu'il ait toujours beaucoup tenu à préserver les signes de son identité chinoise. Ne serait-ce que dans le costume, à en croire les quelques pages de l'ouvrage précité, donc de cette biographie, quelques pages consacrées à son style de vie, pages dont on peut supposer qu'elles se fondent surtout sur les souvenirs de son fils. Donc à en croire ces quelques pages, même lorsque Zhang Yuanshan fréquentait le gratin de la société chinoise ou sino-étrangère, comme il n'a cessé de le faire, est-ce fonction à la CIFRC et dans d'innombrables comités, mais aussi à l'Association des anciens élèves d'Europe et d'Amérique à Pékin ou même au Rotary Club. Même là, il restait habillé à la chinoise avec la veste et la jupe de style manchou et les sandales de toile que portaient les gens ordinaires à l'époque. Et c'est en effet ainsi qu'on le voit sur les quelques portraits de groupe que j'ai pu voir avec son bonnet à la chinoise au milieu de ses collègues tous redingotés et chapeautés. En présence des étrangers, nous dit encore son fils probablement, il ne se montrait ni humble ni hautain, mais, nous est-il dit, il préservait sa dignité de Chinois. C'est même dit à plusieurs reprises dans ce petit ouvrage. Zhang Yuanshan était apparemment un organisateur né, toujours cadre, secrétaire général ou président de quelque chose ou de plusieurs choses à la fois en général. Il avait quitté la Chine en 1911, avec une bourse pour aller étudier à l'université Cornell, donc cette grande université en grande partie scientifique, dans le nord de l'État de New York. Détail caractéristique, je le signale au passage, avant de prendre le bateau à Shanghai, donc pour partir en Amérique, il coupe sa natte, car on était encore sous la dynastie Manchu, exactement comme Li Jie le fera, ou l'avait fait plutôt 3 ans plus tôt. Zhang Yuanshan sort de Cornell en 1915, diplômé de chimie, et retourne en Chine, où il réside d'abord à Tianjin. Et là, quelques mois plus tard, on peut voir dans le Cornell Alumni News, ça ce sont le genre de trouvailles qu'on fait, je ne vous le cache pas, sur Internet. Autrement dit, le bulletin des anciens de Cornell, on trouve donc dans le Cornell Alumni News que Zhang Yuanshan est en train de, que Y.S. Zhang, pardon, est en train de mettre sur pied une association des anciens de Cornell en Chine du Nord, dont il est bien sûr le secrétaire et qui apparemment s'est réuni très régulièrement par la suite pour entretenir la flamme, si je puis dire, cornélienne parmi les anciens élèves chinois. Et ce même bulletin, ce même Cornell Alumni News cite en 1918 une circulaire de Zhang dans laquelle il est proclamé que, je cite, « Entre autres choses, Cornell nous a enseigné l'efficacité, le sacrifice de soi, la coopération et la camaraderie. » Et cette même circulaire conclut en affirmant que l'esprit de Cornell et la culture de Cornell doivent prospérer en Chine du Nord. Donc tout ça, ce sont des valeurs bien américaines, l'efficacité, le sacrifice de soi, la coopération, etc. Des valeurs bien américaines qui sont celles-là même dont Todd ne cesse de répéter qu'il faut les enseigner aux élites chinoises afin qu'elles deviennent un peu moins chinoises, justement. Zhang a également fait construire à Pékin, en collaboration avec des grands notables comme Yan Huiqing, donc W.W. Yan, je vous avais cité cet ancien premier ministre et ambassadeur la dernière fois, ainsi que Wai Tizhuo, que j'ai cité tout à l'heure. Donc, il fait, avec ses collègues, ils font construire le siège de l'Association des anciens étudiants d'Europe et d'Amérique à Pékin. Le siège à Pékin de l'Association des anciens étudiants d'Europe et d'Amérique, donc Omei Tongxue Hui, ou en anglais Western Return Scholars Association. J'ai l'impression que cette association existe toujours dans divers pays chinois. Association donc, dont il sera secrétaire général jusqu'à son départ de Pékin en 1935, et où se tiennent toutes les réunions du comité exécutif de la CIFRC. On est vraiment, en tout cas pour les Chinois, entre anciens élèves des universités occidentales. Zhang Yuanshan adhère aussi au Rotary Club de Pékin, qu'il présidera 2 ans. Et enfin, détail que, de façon typique, sa biographie publiée en Chine populaire omet de mentionner, au moment de la création de la CIFRC, il était apparemment un des responsables du YMCA en Chine, donc de l'Association des jeunes gens chrétiens. Il semble qu'il était responsable du YMCA à Tianjin, mais au moment de la création de la CIFRC, ou plutôt du comité unifié de Pékin un an avant, c'était une affaire de YMCA, lui à Tianjin, et l'Américain Edwards, que j'ai mentionné la dernière fois, pour le YMCA de Pékin. Autrement dit, je ne peux pas le prouver, mais il y a de fortes chances qu'à un moment ou à un autre de sa vie, Zhang Yuanshan s'est converti au protestantisme. En tout cas, il parlera plus tard de son admiration pour la religion chrétienne. Mais sa biographie, parue en 2002, dit qu'il n'a jamais cru à rien. Zhang Yuanshan était en tout cas un organisateur né, comme je l'ai dit tout de suite à l'instant, mais c'était aussi, en plus de ça, un rigoriste en matière de règlement. Et il l'était tout particulièrement lorsqu'il s'agissait de maintenir une stricte séparation entre le domaine public et les intérêts privés. Sa biographie insiste avec force détail sur son intégrité sourcilleuse. Il n'était pas question d'utiliser même un timbre-poste ou un crayon du bureau pour un usage personnel. Et c'est un fait que cette honnêteté scrupuleuse est confirmée par beaucoup d'autres sources. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup plus tard, Zhang s'est exprimé lui-même sur ce réglementarisme pointilleux dont il était l'apôtre à l'époque de la CIFRC. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il en a parlé en évoquant ses relations difficiles avec ces étrangers qu'il fréquentait tous les jours. Il se trouve en effet que Zhang Yuanshan a laissé au moins 2 textes de souvenirs sur la CIFRC et sur le mouvement coopératif rural, qui était donc, comme nous l'avons vu, son domaine d'excellence. Le premier texte est daté de 1960, c'est celui auquel je faisais allusion, et l'autre de 1979. Et ils ont été composés l'un et l'autre dans le cadre de la vaste entreprise des Wenshe Zilia, lancée pendant cette même année 1960 et qui consistait donc à publier des témoignages et des souvenirs sur l'histoire de la période républicaine par les acteurs eux-mêmes. De même que la plupart des témoignages et des souvenirs publiés dans les Wenshuzhliao, ces textes de Zhang Yuanshan doivent être pris, si j'ose dire, cum grano salis, ou si vous préférez, en faisant la part des choses. D'un côté, il y a une quantité d'informations précises, et par un auteur qui a réellement vécu les choses de l'intérieur, et de l'autre côté, il y a ce que j'appellerais la sélectivité de la mémoire, et surtout, il y a ce qu'on pourrait appeler une réorganisation des valeurs sous l'emprise de l'idéologie dominante, c'est-à-dire de l'orthodoxie communiste. Réorganisation dont la conséquence est que l'auteur tente à réinterpréter les événements qu'il relate et à les hiérarchiser de façon différente. Et c'est surtout frappant dans le premier texte de Zhang Yuanshan, celui de 1960, où il commence par dire que les coopératives rurales, ce n'était vraiment pas une solution parce que c'était du réformisme et que leurs promoteurs n'avaient pas compris que la seule solution, c'était la révolution socialiste. En quoi, notons-le, il reste dans la ligne de déclarations publiques qu'il avait faites en 1951, dans lesquelles il avait en quelque sorte renié son travail passé en affirmant qu'il ne se rendait pas à leur compte, qu'il ne faisait que seconder les entreprises de l'impérialisme américain, camouflées derrière le masque de la philanthropie, et que la réforme rurale ne faisait que prolonger l'existence d'une société pourrie. Mais après avoir dit ces choses au début de son article, il s'embarque de rechef dans un récit détaillé de ses efforts et de tout ce qu'il a réussi à accomplir, dont, comme je le disais tout à l'heure déjà, dont il retire une évidente fierté, et à quoi, malgré ses dénégations et malgré le changement d'idéologie, je suis convaincu qu'il continue, en 1960, de croire. Quoi qu'il en soit, ce même texte de 1960 inclut une section, curieusement, je dirais presque, dans la mesure où le sujet de l'article, c'est-à-dire les coopératives rurales, n'y a plus tellement d'importance, inclut une section qui est intitulée, de façon assez saisissante, si l'on se souvient que la CIFRC était en principe une entreprise de coopération entre Chinois et étrangers, intitulée « La lutte avec les étrangers », Tong Yangzhen de Douzheng. Cette contradiction, parce qu'il parle aussi de Mao Dun, bien sûr, entre étrangers et Chinois, entre les étrangers et nous, car Zhang dit toujours « nous » quand il parle de la commission, comme si les étrangers étaient extérieurs, cette contradiction, il la voit d'abord dans le fait que si les ressources de la CIFRC, en effet, provenaient pour un tiers des contributions des étrangers, en revanche, leur contribution au travail effectivement accompli était minime. Pas plus de 2 ou 3%, affirme-t-il, et aux échelons de base, pratiquement rien. Dans le cas du programme de coopération de coopératives rurales, en fait, la collaboration des étrangers a été progressivement réduite à zéro. On a dû les éliminer, en fait, parce qu'ils posaient, dit-il, trop de problèmes sur le terrain et qu'ils n'arrivaient pas à se conformer aux procédures édictées, si bien que, après le départ des étrangers, le programme est devenu profondément chinois. Ou, comme le dit Zhang Yuanshan, il emploie le mot « tuqi », ce qui signifie il est devenu rustique, si vous voulez. Mais les raisons des difficultés avec les étrangers, les raisons pour lesquelles il a fallu, encore une fois, lutter, tels qu'il les analyse, sont beaucoup plus générales. D'abord, il y a ce complexe de supériorité qui caractérisait les étrangers dans l'ancienne Chine, dit-il, ancienne Chine signifiant la Chine d'avant 1949, complexe de supériorité totalement injustifié, cela va sans dire, mais il le précise quand même, et il y avait leur arrogance qui intimidait tout le monde. Mais en fait, ajoute-t-il, on pouvait très bien les remettre à leur place. Et à titre d'illustration, Zhang Yuanshan relate sur un ton très satisfait une dispute de bureau qui montre à quel point cette lutte dont il parle pouvait prendre des aspects mesquins. Une secrétaire étrangère, une vieille fille anglaise, précise-t-il, qui lui donne à signer une comptabilité pleine d'erreurs, qu'il corrige malgré ses protestations, après quoi elle fait une grosse crise de larmes dans son bureau. Du coup, les autres, c'est-à-dire les Chinois, sont ravis. En tout cas, le résultat, c'est que la secrétaire en question a perdu de sa superbe et que les autres étrangers ont su, eux aussi, à quoi s'en tenir. Un autre aspect de la lutte, encore une fois, d'après Zhang Yuanshan, c'est la désinvolture des collaborateurs étrangers de la CIFRC avec les règlements. Ils engagent des dépenses sans autorisation, ils utilisent la voiture de la commission pour leurs besoins personnels, privés, et sans rien rembourser, etc., etc. Et à chaque fois, le secrétaire général est obligé de brandir le règlement pour les rappeler à l'ordre ou d'édicter un nouveau règlement pour décourager ce genre de comportement. Et là encore, c'est utile parce que la leçon est entendue par tous les étrangers de la CIFRC. Enfin, Zhang mentionne le problème soulevé par certains collaborateurs étrangers de la CIFRC, il n'hésite pas à les qualifier de vauriens, de liumang, qui, à l'occasion d'un séjour dans leur pays d'origine, réussissaient à rassembler des fonds en sollicitant leurs compatriotes sous prétexte de secourir les victimes chinoises, mais qui, une fois rentrés en Chine, s'estimaient libres de décider eux-mêmes de l'utilisation de cet argent, le prenaient de haut devant leurs collaborateurs chinois, donnaient des ordres, etc. Il a donc fallu instituer au sein de la CIFRC ce que Zhang Yuanshan appelle un dogme, un dogme en vertu duquel les fonds collectés pour secourir les victimes des famines ne peuvent servir qu'à cet usage, ce qu'on exprimait informellement, dit-il, par la formule « l'argent des étrangers, l'affaire des Chinois », ce qui est effectivement assez, Yang Zhentian, ce qui littéralement voudrait dire l'argent des étrangers, c'est l'affaire des Chinois. Il veut dire que l'argent même apporté par les étrangers concernait les gens dont la CIFRC était supposée s'occuper. Donc ça, c'était la première partie de ce dogme, entre guillemets, et l'autre partie, c'était que toute dérogation à un tel principe devait être discutée collectivement par les responsables chinois et étrangers, donc pas d'initiative individuelle, et enfin que étrangers et chinois devaient systématiquement répondre de l'utilisation des fonds devant le secrétaire général. L'allusion à Todd, qui en effet se démenait pour trouver des fonds aux États-Unis afin de financer son département, ce qu'il tenait à faire en toute indépendance, l'allusion à Todd est transparente. Et de fait, Zhang, un peu plus loin, mentionne dûment un incident le concernant, mais il le mentionne de façon malheureusement assez vague. D'après lui, Todd aurait un jour fait toute une histoire, mais il ne dit pas pourquoi. Fait toute une histoire au point que Zhang avait dû le menacer d'envoyer une lettre ouverte à la presse chinoise et étrangère pour révéler la façon dont il dilapidait les contributions des donateurs américains et ruinait le travail de secours. Il ne nous est pas dit, malheureusement, quel était exactement le problème, mais voilà au moins un exemple où les deux hommes semblent s'être ouvertement et même violemment affrontés. Pour conclure sur cet aspect des choses, je dirais que s'il est plus que probable qu'il existait en effet des frictions entre Chinois et étrangers au sein de l'administration de la CIFRC, on peut quand même se demander si c'était si dramatique que cela, et surtout si l'organisation souffrait réellement d'une sorte de faiblesse systémique découlant du comportement de ses collaborateurs étrangers, comme l'affirme plus ou moins Zhang. Ce que je trouve d'intéressant dans tout ce qui précède, c'est qu'avec le recul du temps, Zhang Yuanshan semble donner à ces incidents, somme toute assez triviaux, une importance démesurée, qu'il en fait, nous venons de le voir, autant d'épisodes d'une lutte quasi existentielle entre l'arrogance, voire la malhonnêteté de ses collègues étrangers et les principes qu'il se bat pour préserver dans l'intérêt de la Chine et des Chinois au service desquels la CIFRC s'était vouée. En somme, c'est comme si les partenaires étrangers de la CIFRC étaient un corps justement étranger, qu'il était nécessaire de neutraliser ou même d'expulser, ce qui d'ailleurs a en partie été le cas, puisque au long de son histoire, et surtout pendant les années 30, l'organisation de la CIFRC s'est progressivement sinisée. Par exemple, comme je l'ai mentionné, le programme de coopération rurale est devenu dans les années 30 le programme phare de la CIFRC, avait été complètement sinisé dès les années 1920. Enfin, les étrangers en avaient été écartés. Soit dit en passant, une chose qui me frappe beaucoup dans les problèmes et les incidents dont je viens de parler, c'est le réglementarisme hautain, pour ne pas dire hargneux, qu'affiche Zhang Yuanshan dès lors qu'il s'agit de remettre à leur place ces étrangers qui ne savent pas se conduire. Ça me frappe beaucoup parce que nous avions rencontré la même chose il y a quelques années, lorsque j'avais évoqué certains magistrats locaux à la fin du 19e siècle, dans les années 1880, si je me souviens bien, qui étaient confrontés aux problèmes suscités par le comportement arrogant et par les initiatives incontrôlables de missionnaires, de marchands ou de diplomates étrangers qui se croyaient tout permis parce qu'ils étaient protégés par les traités. Et l'attitude adoptée par ces magistrats, c'était justement le réglementarisme, c'était de renvoyer à la lettre des traités ces étrangers non seulement arrogants, mais en outre ignorants des textes qu'ils avaient eux-mêmes imposés à la Chine. Or, nous avons un peu la même chose ici. Les statuts de la CIFRC, son règlement intérieur, sont occidentaux, entre guillemets, au sens où ils se conforment au modèle juridique et administratif européen ou américain qui, de toute façon, domine à cette époque en Chine. Zhang Yuanshan se fait donc un plaisir de les appliquer sans pitié aux collaborateurs non chinois de la CIFRC qui s'estiment autorisés à les prendre à la légère. Tout cela est bel et bon, mais le problème est que bien souvent les partenaires étrangers de la CIFRC, les Américains en particulier, se plaignent de façon symétrique du manque de rigueur des Chinois, de leur incapacité à respecter les contrats et les procédures établies, quand ce n'est pas de leur corruption. Et il va de soi que ce genre d'accusation dépasse largement le cadre de la CIFRC. Je serais tenté, en fait, de dire, et c'est ce que je développerai la prochaine fois, je serais tenté de dire que ce à quoi nous avons affaire, c'est d'abord une opposition entre deux styles, aggravée par beaucoup de préjugés de part et d'autre. Donc c'est là-dessus que je reviendrai un moment, la fois prochaine. Après quoi, toujours en citant beaucoup Todd et ses correspondants, ainsi qu'un certain nombre d'auteurs chinois, avant de me transporter de nouveau sur notre terrain au Shanxi pour y retrouver des difficultés similaires, mais cette fois-ci dans des circonstances parfois beaucoup plus dangereuses et plus graves et au plus près des problèmes de développement régional qui donc continuent de nous concerner cette année. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.